Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Le dépassement budgétaire enregistré à la présidence de la République s'explique par des besoins urgents, assure le député provincial de l'UDPS, Jean-Claude Chilumbaï. Il était l'un des invités du dialogue entre Congolais hier, mais l'Observatoire de la dépense publique, de son côté, rappelle que depuis août 2021, la présidence de la République engage des dépenses sans disponibilité des crédits. Les alertes sécuritaires sur les réseaux sociaux profitent à l'ennemi en lui permettant de déjouer le plan d'action de l'armée. Constat de l'armée exprimé hier à Beni. Ainsi, elle attire l'attention des autorités et de la population locale pour que les mesures sécuritaires soient prises discrètement. Et puis, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, au Sud Kivu, prêt à exporter sa première cargaison de café à l'étranger. Un exploit après une année seulement de l'inauguration de son usine. Pour en parler, nous recevons François Kambalé, directeur provincial de l'ONAPAC Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le dépassement budgétaire enregistré à la présidence de la République s'explique par des besoins urgents comme la sécurité, la diplomatie et aussi la nécessité de créer des structures spécialisées pour permettre au chef de l'État d'accomplir les tâches constitutionnelles qui sont les siennes. C'est ce qu'affirme le professeur Jean-Claude Chilumbaï, député provincial de l'UDPS. Il intervenait hier dans le magazine Dialogue entre Congolais de Radio Okapi. Suivez.
Lorsque vous prenez l'institution comme la présidence de la République et que vous prenez l'ordonnance d'organisation et fonctionnement de la présidence de la République de 2009, vous verrez par exemple qu'il est prévu la possibilité et la nécessité pour l'institution présidente de la République éventuellement de créer des services spécialisés lorsque le besoin l'impose et selon que le président de la République doit accomplir les tâches constitutionnelles qui sont les siennes. Et cette réalité intervient souvent dans des domaines régaliens, le domaine de défense nationale, le domaine de diplomatie, lorsqu'il y a des contingences ainsi de sécurité publique ou d'intérêt majeur de l'État, le président de la République peut arriver à créer, comme il est prévu, des services spécialisés qui émargent donc du budget de l'État, le budget de la présidence de la République. Il y a des situations nouvelles comme la naissance des obligations et des missions qui peuvent être effectuées à l'étranger, des émissaires qui peuvent aller dans des circonstances qui n'ont pas été exceptionnellement prévues lors de l'adoption du budget. Et cela doit émerger de l'institution présidence de la République. Ça ne signifie pas que ça s'appelle détournement.
En réaction, Valérie Madianga, chargée de communication de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, affirme que le dépassement budgétaire est une violation de l'article 38 de la loi des finances publiques qui dit que les crédits budgétaires sont limitatifs et en se référant à l'article 129 de la même loi précise que le dépassement budgétaire est une faute de gestion. Valérie Madianga était lui aussi l'un des invités du dialogue entre Congolais hier.
Je voudrais rappeler que les charges de l'État sont déterminées dans le budget de l'État, c'est-à-dire la loi des finances. Et dans la loi des finances, chaque service présente ses besoins annuels au cours de séances qu'on appelle les conférences budgétaires qui sont organisées par le ministère ayant en charge le budget. Au cours de cette année, les conférences budgétaires se sont déroulées au mois d'août. Tous les services publics ont présenté leurs besoins. Au cours de l'année, nous constatons que dans l'exécution, certains services, nous sommes déjà au mois de septembre, ont même dépassé tout ce qu'on leur avait accordé comme budget, voté par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc là, il y a déjà violation de l'article 38 de la loi relative aux finances publiques qui dit clairement que les crédits budgétaires sont limitatifs et les dépenses sur les crédits limitatifs ne peuvent être engagés ni ordonnancés au-delà des dotations budgétaires. C'est ce qui fait référence maintenant à l'article 129 de la loi relative aux finances publiques qui qualifie les dépassements budgétaires de faute de gestion.
Un dossier signé Guy Matetsongo. Les forces sociales et politiques de la nation, parmi lesquelles le comité laïque de coordination, dénonce ce qu'elle qualifie d'usurpation des droits fondamentaux du peuple congolais par l'Union sacrée de la nation. Dans une déclaration hier à Kinshasa, le président national du CLC demande au peuple congolais de sauver sa souveraineté constitutionnellement garantie. Pour Bosco Lalo, la nation congolaise est en péril et il faut sauver la patrie. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
le peuple congolais dont les aïeux ont chèrement acquis la souveraineté nationale et internationale ne peut rester indifférent. Il est clair que la scolarité des enfants et la prise en charge des enseignants, la persistance des massacres et tueries dans la partie est de notre pays, la problématique de la suppression totale du RAM et tant d'autres questions qui constituent les aspirations et les ententes des souverains primaires congolais sont les cadets des soucis du pouvoir. Point n'est besoin de rappeler en ces lieux que les valeurs éthiques sous-tendent le respect des règles de jeu établies, à l'espèce nos lois. À ce jour, le constat de la gouvernance du pays est l'instauration lente mais sûre et résolue d'une dictature dévastatrice. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM.
La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a ouvert hier un atelier de formation des membres des mécanismes de lutte contre la corruption sur le thème « Lutte contre la corruption et les droits de l'homme ». Prennent part à cette rencontre les représentants des structures qui militent contre la corruption et autres antivaleurs en RDC, en l'occurrence l'Inspection générale des finances, l'APLC, Agence de prévention et de lutte contre la corruption, une structure attachée à la présidence de la République. Au chapitre des recommandations, le coordonnateur de l'APLC propose l'impartialité de la justice, principalement les magistrats, et la liberté d'expression reconnue aux médias. Thierry Mboulamoko, coordonnateur de l'APLC, dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
L'indépendance des juges est une condition préalable à l'équité des procès. L'indépendance de la justice à l'égard de l'exécutif et du législatif est donc l'un des fondements de l'état de droit. Il faut donc garantir aux juges une indépendance réelle pour éviter toute influence politique indue sur les tribunaux pouvant donner lieu à des jugements biaisés et corrompus qui servent des intérêts autres que l'intérêt public. L'APLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions, mais également en dehors des institutions. Cette garantie concerne le plus des journalistes dans leur rôle d'informer. Il est essentiel de garantir la liberté d'expression des journalistes qui cherchent à faire la lumière sur des faits de corruption, car le public est en droit de recevoir des informations sur des soupçons de corruption impliquant des personnalités publiques, y compris politiques. Il est par conséquent vital que les journalistes ne soient pas empêchés de lancer l'alerte lorsqu'ils découvrent des cas de corruption et prévoient de les révéler. Et en RDC, nous devons garantir la liberté des journalistes dans leur travail d'investigation pour révéler les faits liés à la corruption.
Merci de nous recevoir en Ngandajika. Nous sommes dans la province de Lomami. Le village et l'avenir de l'Afrique noire, c'est le thème du premier colloque interdisciplinaire ouvert hier dans cette entité pour célébrer les 15 ans d'existence du projet d'Itunga, une association de développement. Plusieurs personnalités du monde scientifique, politique, de la RDC et de l'étranger participent à ces travaux. Esther Ndalafina, reportage.
Ce colloque se tient au centre culturel Monseigneur Tarsisi Tshibangu Tshishiku du projet d'Itunga, situé en plein cité de Ngandajika. D'après Samine Toumba, coordonnatrice du projet, ce colloque a pour but de définir les voies et moyens de réhabilitation et de promotion du village africain comme espace d'opportunité et de créativité pour un avenir. Pour les habitants de Ngandajika, ces travaux nous poussent à rester au village pour le développer. Pascal Kazadikaboulou.
Intellectuels que nous sommes, quand nous terminons des études, nous pensons toujours rester en Europe, aux États-Unis. En plus de cela, nous oublions encore notre culture. Or, le village a besoin de nous. Le colloque vient à peine de m'édifier.
Monique Ngantoukaniki pense que ce colloque a redonné de la valeur à la cité de Ngandajika.
Mais c'est quelque chose qui va nous aider à améliorer nos villages. On ne va pas seulement transformer nos villages en villes. C'est une fierté pour nous. Nous remercions beaucoup M. l'abbé Apollinaire Tshibaka d'avoir pensé à son village en amenant des personnes importantes sur la cité de Ngandajika pour donner la valeur à notre village.
Les orateurs du premier jour à ce colloque ont évoqué le fait que les villes sont des lieux de pression, d'exclusion et de forces inégales. Ils ont tous suggéré d'évaluer les défis qui bloquent le développement des villages et aussi les affronter. De Ngandajika, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
24 octobre 1945, 24 octobre 2021, 76 ans sont passés depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'événement est célébré chaque année par les gouvernements du monde ainsi que par le système onusien. À Kinshasa, c'est avec des élèves et des étudiants de la place que la chef de la MONUSCO s'est retrouvée hier pour échanger autour de l'histoire de l'organisation de la mission des Nations Unies en RDC ainsi que du rôle de l'ensemble des agences de l'ONU dans ce pays. Le compte rendu de Honoré Missenga Kalala.
Bonjour les jeunes.
C'est dans cette ambiance bon enfant que la représentante spéciale a démarré ses échanges avec les 250 élèves et étudiants venus des quatre établissements scolaires et universitaires de la place. Le cadre, c'était le centre culturel du collège Boboto. Il y a eu des exposés autour de plusieurs sujets, la MONUSCO, les ODD, objectifs de développement durable, le changement climatique, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes. Concernant ce dernier sujet, la représentante spéciale a répondu à une préoccupation précise.
Nous travaillons avec les jeunes entrepreneurs de la FEC, mais il faut aussi faire circuler les bonnes nouvelles d'engagement.
À ce sujet, Bintou Keïta a déploré que les informations sur les actions positives que fait la MONUSCO ne circulent pas. Même chose pour les informations sécuritaires.
Rappelez-vous qu'il y a 20 ans et un peu plus, le pays était divisé, le pays était en guerre civile un peu partout. Les Nations Unies ont contribué à ce qu'aujourd'hui à Kinshasa, vous ne soyez pas dans cette situation.
Les impressions de quelques participants à la fin de la conférence.
Par rapport à l'action de la MONUSCO, j'avais des rumeurs sur ça, disant qu'à l'est du pays, ils ne font presque rien et qu'on sort. L'image sur la MONUSCO a un peu changé, en moi au fait.
J'ai retenu par rapport à cette conférence de jeunes, par rapport à la MONUSCO aussi, on a beaucoup parlé et on a beaucoup aussi retenu des bonnes choses.
Je vous le disais en titre, les alertes sécuritaires sur les réseaux sociaux profitent à l'ennemi en lui permettant de déjouer le plan d'action de l'armée. C'est ce qu'affirme l'armée à Beni après avoir constaté que la population ainsi que les acteurs de la société civile préfèrent les réseaux sociaux. Ainsi, elle demande que les alertes soient faites aux commandements les plus proches de la population afin que les mesures sécuritaires soient prises discrètement. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, au micro de Marc Marofimbo.
Ça ne suffit seulement pas de dénoncer, mais de se rejoindre à l'armée pour travailler ensemble. Dénoncer dans le média, dans les réseaux sociaux, bon, en fait, c'est déjà devenu l'habitude ici, mais ça ne suffit pas. L'essentiel, c'est s'approcher auprès des commandants, auprès de l'armée, et travailler ensemble. Quelqu'un qui vous dira, par exemple, à des milliers de kilomètres à partir de Kinshasa, que lui connaît là où se cache l'ennemi, il cite même le nom. Mais il est incapable de venir prendre l'armée et partir là-bas dire que l'ennemi se trouve ici. C'est ensemble avec les acteurs de la société civile, la population, que nous allons gagner ces combats. C'est pourquoi nous avons toujours demandé aux autorités de la société civile, aux autorités locales, de s'unir ensemble avec les autorités militaires de l'état de siège pour que la victoire ne soit pas non seulement la victoire de l'armée, mais que ce soit la victoire du peuple congolais.
Par ailleurs, l'émissaire principal du Parlement des jeunes du Nord Kivu vient de lancer une campagne dénommée « Tournée pour la paix dans la ville et le territoire de Beni » selon Jules Maté. Cette campagne, axée sur l'échange avec plusieurs couches de la population, a pour objectif de sensibiliser les civils à la dénonciation des mouvements suspects des groupes armés et au renforcement du mariage civilo-militaire. Le mercredi, des échanges ont eu lieu avec des motards de la commune Rwenzori de la ville de Beni. Il leur a été demandé de contribuer à la sécurisation de la région en collaborant avec les forces de défense et de sécurité, signalant que cette campagne rentre dans le cadre de la campagne en faveur de la paix initiée par le Parlement des jeunes du Nord Kivu. Santé. Lancée depuis lundi 25 octobre dans la province de l'Équateur, la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune enregistre l'engouement de la population. Réticente au début, elle se rend en masse pour se faire vacciner dans la zone de santé urbano-rurale de Bolenge, notamment à Wenji Sekli, quartier périphérique situé à 20 km de Mbandaka. Cette campagne vise près de 3 millions de personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Paul Richard Malengela.
Depuis lundi le 25 octobre dernier, plusieurs centres de vaccination préventive contre la fièvre jaune sont ouverts le long de la route Mbandaka-Wenji-Sekli. Pour la plupart, ce sont des femmes qui amènent aussi leurs enfants et des jeunes qui viennent recevoir le vaccin. À notre passage au centre de santé de Wenji-Sekli, qui héberge le principal site du quartier, l'équipe de vaccination était envahie de beaucoup d'enfants en âge scolaire. Après sa piqûre de vaccin, Ruth Efandi Kombola, la quinzaine révolue, a indiqué sa satisfaction. J'ai déjà reçu le vaccin. Je suis encore jeune, cela va me protéger. C'est vraiment important. Juste à côté, Madame Natacha Bossa, qui vient d'entrer au centre. Elle accompagne simplement sa fille, dit-elle. Elle-même est encore méfiante. J'ai résolu de venir faire vacciner ma fille en vue de la protéger contre l'épidémie. Moi-même, j'ai peur, parce qu'à chaque fois que je reçois le vaccin, il me rend malade. Mais le coordinateur provincial du peuple Équateur, que nous avons rencontré en supervision sur les lieux, a expliqué que cette réticence était générale tout au début de la campagne. Mais elle a cédé de plus en plus place à l'engouement. Docteur Roque Bayoli.
Ça avait hésitation, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a quand même une adhésion. Il y a engouement. Puisque les sites qui n'avaient pas vacciné plus de 50 personnes, aujourd'hui, ils sont dans les 200. 300 personnes vaccinées.
Notons qu'une carte jaunâtre est remise à chaque personne vaccinée. Bandaka, Porsche Malingela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution unanime sur le Soudan. Après plusieurs jours de discussion, la Russie et la Chine ont accepté de signer un texte amendé définissant une position commune. Dans la rue, au moins une personne supplémentaire s'érigeant contre le coup d'État a perdu la vie. Et puis, en pleine crise de réputation, Facebook tente de faire diversion et annonce changer de nom pour devenir Meta. Mark Zuckerberg a dévoilé ce Facebook du futur hier. Il s'agit d'une plateforme sociale entièrement numérisée dans laquelle Facebook a déjà investi des milliards de dollars.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, s'apprête à exporter sa première cargaison de café à l'étranger. Cet exploit intervient une année seulement après l'inauguration de son usine de traitement du café. Pour en parler, nous recevons le directeur provincial de l'ONAPAC Sud Kivu, François Kambale, s'entretient avec Emmanuel Elamegi.
Monsieur François Kambale, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'ONAPAC Sud Kivu a installé son usine de traitement de café. Parlez-nous de cette usine, comment ça fonctionne à ce jour?
Pour mémoire, l'usine a été installée sous fonds propres de l'ONAPAC. Aujourd'hui, l'usine de dépachage de Bukavu va sortir son premier enfant. Aujourd'hui, à Bukavu, on peut exporter le premier lot. Et c'est le lot de café Robusta qui va aller au Liban. C'est-à-dire, dans les temps, les cafés qui étaient produits dans le Sud Kivu étaient acheminés dans les autres provinces par manque d'usines de dépachage. Nous avons au moins plus de 6000 tonnes que nous produisons dans le Sud Kivu. Tu t'imagines, dans les temps, tous ces cafés nous échappaient pour que nous puissions résorber toute la production du Sud Kivu et que nous puissions les traiter au niveau du Sud Kivu et qu'il y ait des exportations au niveau même de la province.
Qu'est-ce qui est prêt pour exportation aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est le café Robusta. C'est le premier lot qui sort de l'usine que nous allons exporter. Et ce café va aller au Liban. Et le Sud Kivu, c'est une province à forte potentialité agronomique. Je dirais même que c'est le gibecier du café arabica. Parce que même quand nous sommes au laboratoire, quand nous analysons le café, nous l'appelons K4, K2, 4, K1. Le K, là, c'est le Kivu. Et donc, nous avons un meilleur café ici. D'ailleurs, je tiens à vous signifier que la coopérative Sopakdi a été meilleure au monde avec son café. Encore une fois, en 2018, il était meilleur. Aujourd'hui, encore en 2021, il est publicité meilleur café au monde.
Donc, le café du Sud Kivu.
Le café du Sud Kivu. Vous imaginez, mais nous, quand même, au Congo, on doit aussi savoir quand même qu'il y a des gens qui travaillent, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous pouvons travailler correctement le café plus que tout le monde au monde. Donc, tu vois, c'est quand même un élément important et que les gens doivent en parler. On ne doit pas toujours parler de négatifs. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font de ce côté.
C'est quelle quantité que vous exportez maintenant vers le Liban?
Nous allons assurer l'exportation d'un conteneur, c'est-à-dire 19 200 kg de café Robusta qui vont partir. C'est presque 20 tonnes. Et ce n'est pas tout, c'est le début. D'ailleurs, je vous informe que nous sommes dans la petite saison où il n'y a pas trop de café. Mais quand même, nous avons déjà quelques 1, 2, 3 lots qui vont partir. Nous pensons avec cette allure à la grande saison qui va commencer au mois de mars, avril, mai. Nous allons régorger beaucoup de café qui vont aussi partir dans le monde extérieur. Mais à cela, nous devons toujours dire à la population de consommer aussi local. Nous devons aussi consommer notre propre production. J'aime beaucoup l'Éthiopie. L'Éthiopie produit son café, mais il en consomme lui-même 60%. Cela encourage davantage les producteurs. Oui. Tous les cafés ne doivent pas toujours sortir. On doit aussi commencer à consommer local.
Près de 20 tonnes que vous exportez aujourd'hui vers le Liban, on peut estimer, ça rapporte quoi au pays, à la province, à l'ONAPAC?
Quand il y a exportation, il n'y a pas seulement l'ONAPAC qui est service de régulation de la filière qui se retrouve. La province a beaucoup de services qui sont au niveau de la frontière qui se retrouvent. On ne veut pas tous les citer. Il y a l'OCC, la DGDA, tous les services au niveau de la frontière. L'OCC qui doit voir la conformité de la qualité que l'ONAPAC à élucider à partir de son laboratoire. Il y a même les banques, parce que quand les produits sortent, les rapatriements des fonds doivent se faire au niveau de nos banques locales. Donc c'est un circuit où tout le monde se retrouve.
Après ce premier lot qui est en train de partir, vous dites que d'autres sont en train aussi d'être constitués avec la grande saison qui va commencer.
Avec la grande saison, déjà les mécanismes sont mis en place pour avoir beaucoup de café au niveau de la province. À cela, j'invite les autres opérateurs économiques. L'usine, c'est pour tous les Sud-Kivusiens. C'est un outil qu'on a mis à la disposition de la population du Sud-Kivu pour usiner votre café et commencer à exporter à partir du Sud-Kivu. Alors, notre usine ici, c'est comme ça, une usine de déparchage. Donc, lorsque la parche est enlevée, nous avons un café qu'on appelle café vert et c'est le café là qu'on appelle café marchand. Donc, il est maintenant à ce niveau-là exportable. C'est comme ça qu'après cette étape-là, nous sommes censés amener l'échantillon au laboratoire où nous avons des experts à dégustation qui vont nous dire, non, monsieur l'exportateur, votre café a telle qualité. Et nous émettons un document de valeur qu'on appelle le certificat de qualité. C'est un document qui décrit la qualité exacte de votre produit. À ce moment-là, maintenant, d'autres documents vont suivre, comme l'émission des documents qu'on appelle les certificats d'origine internationale. À partir de ces documents, on définit même les statistiques de production de chaque lieu de sortie de ces cafés. Donc, comme ça va sortir de Bukavu, on saura que non, voici le premier lot de Bukavu, traité à Bukavu, est sorti de Bukavu. Et à la fin de la campagne, il y a lieu de dire non, voilà, à Bukavu, on a produit autant de conteneurs. C'est grâce à ces documents-là.
Monsieur le directeur François Kambale, merci.
Par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.